Alors, donc bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième séance du séminaire Flaubert sur le thème de l'insociable sociabilité. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Éléonore Reverzy et je la remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Éléonore est professeure de littérature française à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, spécialiste de Zola, des Goncourt, de Huysmans et de Mirbeau. Elle travaille sur les relations entre la littérature du XIXe siècle et les discours politiques, historiques et sociaux. Elle a publié La mort d'Eros, paru en 97, La chair de l'idée poétique de l'allégorie dans les Rougon-Macquart, paru en 2007, Portrait de l'artiste en fille de joie, la littérature publique, paru en 2016, et son dernier ouvrage, Témoigner pour Paris, récit du siège et de la commune. Pardon? Oui, donc vient de paraître il y a quelques semaines, je crois. Elle a coordonné un numéro spécial sur Flaubert et la prostitution dans la revue Flaubert de l'Université de Rouen. Et donc après, pour cette troisième séance, après les deux premières séances donc avec Bernard Jandrel et Jacques-David Ebguy, essentiellement tournées vers le versant masculin de la sociabilité dans l'éducation sentimentale, Éléonore Reverzy va nous présenter une communication sur la sociabilité féminine et plus spécifiquement sur la sociabilité des jeunes filles de Madame Bovary à Un cœur simple. Et je lui laisse la parole.
Merci Juliette de cette présentation. Et donc, j'adresse tous mes remerciements à Eric parce que, comme Juliette vous l'a rappelé, je suis absolument pas spécialiste de Flaubert. Et Eric m'a vraiment aidée à circuler, alors sans doute avec beaucoup de maladresse et j'ai un petit peu honte devant vous, mais dans les brouillons de l'éducation sentimentale. Alors, la première difficulté que j'ai rencontrée, et je me suis dit, ça, c'est bien une perversion de chercheur. C'est que je me suis aperçue, en fait, après avoir proposé ce sujet sur la sociabilité de la jeune fille flaubertienne, que ce sujet, en fait, n'existait pas, que cette sociabilité de la jeune fille était, pour ainsi dire, introuvable dans les romans. J'ai tout relu, quasiment tout relu, sauf les œuvres de jeunesse. Et il y a des jeunes filles, et précisément c'est ça qui m'avait aiguillonnée, mais cette jeune fille flaubertienne a des caractéristiques dont certaines sont très attendues, comme la nervosité, la sensibilité, l'imagination excessive, mais elle a aussi une constante, parfois et partout affirmée, de l'univers du couvent à celui de la ferme, de la Carthage des guerres puniques au Machaerus d'Hérodias, elle est seule. Et de ce constat et de cette constance est né finalement mon questionnement. Pourquoi? Interrogation aussitôt suivie par une autre question qui était: est-ce si sûr? Alors Flaubert, globalement donc, représente des jeunes filles asociales, mais il n'en offre pas moins un terrain très complet des possibles sociabilités de jeunes gens en général, tant en termes de situation géographique, ruralité versus milieu urbain, temporel, antiquité versus société contemporaine, et sociale, en termes de genre et de classe. Mais parmi ces jeunes gens frappe encore aussi le nom de jeunes filles dans les romans de Flaubert, personnages parfois épisodiques, par exemple Virginie dans Un cœur simple, ou ne figurant qu'un état d'une femme à venir, comme Emma ou Félicité, ou occupant la place centrale, Salammbô, Hérodias. Et une jeune fille a en particulier retenu mon attention parce qu'elle ne correspond à aucune de ces places dans l'échiquier narratif, Élisabeth Olympe-Louise Rock, dans l'éducation sentimentale, qui est au centre d'une constellation de jeunes filles flaubertiennes, peut-être l'une des plus attachantes et des plus difficiles. Retenons encore un trait déterminant, ces jeunes filles sont orphelines d'un ou de leurs deux parents, en tout cas toujours de leur mère, Emma Rouault, Louise Rock, Cécile, nièce entre guillemets de Dambreuse, Salammbô, Félicité, privée donc de la première relation affective capitale pour la petite et la jeune fille, celle qui assure d'abord l'éducation de l'enfant, sa mère, et la prépare à sa vie d'adulte. Elles sont de surcroît souvent filles uniques, Emma, Salammbô, Louise, Cécile, ou si coupées de leurs frères et sœurs, comme Félicité, qu'il en va presque de même. En guise donc de premier bilan, hein, de ce panorama brossé vraiment de manière très rapide, on retiendra d'un bout de à l'autre de l'échelle sociale et selon donc des modalités différentes, trois points, la solitude de la jeune fille, le défaut de mère et ses conséquences, elles sont variées, et la singularité de Louise Rock dans la cohorte. C'est d'abord ce défaut de sociabilité que je souhaite interroger. Est-il total? Est-il aussi constant qu'il semble d'abord? Les brouillons de Madame Bovary montrent ainsi que Flaubert a travaillé à désherber autour d'Emma Rouault, au couvent, les possibles interlocutrices qui, dans le texte définitif, deviennent anonymes ou font simplement l'objet d'allusions. N'en subsiste en effet vraiment que la vieille fille qui amène les livres du cabinet de lecture, mais disparaît la fille du banquier qui introduisait dans les brouillons les luxueux keepsakes. Dans les plans et premiers scénarios du roman, il est volontiers fait mention pourtant des nobles amis d'Emma, nobles amis est une citation, Emma qui est alors prénommée Marie, ou encore de, je cite, ses éducations au couvent d'Ernemont avec les filles de Gros Bonnet, piano, dessin, broderie, etc. Ou encore, élevée au couvent de Madame Cousin avec les filles des Gros Bonnet, piano, dessin, broderie, élégance native, quelque peu marinière et fausse, dessine mal, excelle dans la danse, pas artiste, mais idéale. Des désignations un peu précises, keepsakes, entre parenthèses, fille de banquier, ou encore, livre de la Lumélie. Ces désignations un peu précises, donc, qui renvoient à une fille de banquier et à la Duménine, introduisent deux individualités socialement opposées, une camarade d'Emma au couvent qui appartient à la grande bourgeoisie rouennaise et une lingère qui vient 8 jours par mois travailler à la lingerie, comme la narration le développera. Ces deux figures d'intercesseuses ou d'intercesseurs sont, dans le texte définitif, ainsi présentées en mode flouté, pourrait-on dire. Quelques-unes de ses camarades apportaient au couvent les keepsakes qu'elles avaient reçus en étrenne. Il les fallait cacher. C'était une affaire. On les lisait au dortoir, dans l'édition de Jacques Neff, c'est page 105. Et il y avait au couvent une vieille fille qui venait tous les mois, pendant 8 jours, travailler à la lingerie. Protégée par l'archevêché comme appartenant à une ancienne famille de gentilshommes ruinés sous la Révolution, elle mangeait au réfectoire à la table des bonnes sœurs et faisait avec elle, après le repas, un petit bout de causette avant de remonter à son ouvrage. Souvent, les pensionnaires s'échappaient de l'étude pour l'aller voir. Elle savait par cœur des chansons galantes du siècle passé, qu'elle chantait à demi-voix, tout en poussant son aiguille. Elle contait des histoires, vous apprenait des nouvelles, faisait en ville vos commissions et prêtait aux grandes, en cachette, quelques romans qu'elle avait toujours dans les poches de son tablier et dont la bonne demoiselle elle-même avalait de longs chapitres dans les intervalles de sa besogne. Édition Neff, page 103-104. Dans le premier cas, donc, la fille de banquier se dilue dans un groupe. Ses camarades ont l'Élisette au dortoir. Certes, c'est bien sous le signe du partage que s'introduit la délectable contemplation des planches illustrées, ont l'Élisette au dortoir, mais la camarade d'Emma cesse d'être une interlocutrice privilégiée qui ferait profiter Emma, peut-être de manière exclusive, de ses étrennes de papier. L'information résonne plutôt comme un sociologème qui fait entendre ici la différence sociale entre Emma et les filles de la bourgeoisie de la ville. Si une amitié s'esquissait là, elle semble bien avoir disparu aussitôt. On en reste en somme à ces filles de Gros Bonnet dont parlaient certains feuillets précités du manuscrit. Dans le second cas, devenue anonyme, la lingère s'étoffe d'une biographie qui, d'une part, la rapproche des figures d'autorité que sont les bonnes sœurs, avec lesquelles elle mange, fait un petit bout de causette, via la protection de l'archevêché. D'autre part, la rattache à un éros transgressif, fille de gentilshomme, ce qui la lie, la rapproche de Mademoiselle de la Vallière, dont la vie est racontée sur les assiettes quelques pages plus haut, le jour de l'entrée au couvent d'Emma, les chansons galantes du siècle passé, la position d'intermédiaire qu'elle occupe vers la ville, le prêtre roman, dont elle est également une grosse consommatrice. À ce double visage et à ses fonctions contradictoires, la lingère ajoute une fonction agrégative ou agrégatrice autour d'elle se fait le groupe, celui des religieuses ou celui des pensionnaires. Mais le romancier, on le voit, a travaillé à estomper. Et de même qu'il a éliminé l'allusion explicite à certains romans, comme Corinne ou les romans de Madame Cottin, préférant volontiers l'énumération niveleuse bien connue sur les amants courageux comme des lions et pleurants comme des urnes, il a écarté les références à des personnalités introduites avec précision au profit de, je cite le texte définitif, « femmes illustres et infortunées », de Marie Stuart à Agnès Sorel ou Héloïse, ce qui n'a pas peu contribué à détacher Emma de ce milieu conventuel qui ne correspondait pas à son milieu social d'origine et à la désocialiser. On peut y lire un indice propre aux valeurs romanesques. Emma y gagne son statut d'héroïne, d'être à part, toujours en dehors ou au-dessus de ce qui l'entoure. On peut y trouver la première manifestation de son bovarisme. Ses amies sont les héroïnes des romans de Walter Scott. Ou encore, on peut y voir la trace de la volonté de Flaubert de conférer à son personnage une sorte de solitude ontologique, dont un indice serait figuré d'ailleurs par la progressive indocilité de la jeune fille à l'égard des religieuses. Et toutes ces lectures, bien sûr, ne s'excluent pas. Lorsqu'elle s'interroge au chapitre 7 sur les raisons de son mariage, elle ressonge alors à ses camarades de couvent, c'est page 113. Que faisait-elle maintenant à la ville avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres et les clartés du bal? Elles avaient des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent. Mais elle, sa vie était froide, comme un grenier dont la lucarne est au nord, etc. C'est encore l'indistinction du pluriel. Ses camarades de couvent, que faisait-elle maintenant? Emma n'a pas droit à l'amitié. Emma ne se confie pas. Dans les brouillons, il était pourtant évoqué le fait qu'elle aurait une amie pour amie et confidente, quelques vieilles ouvrières du pays qui lui fait passer des lettres. Mais là encore, ce détail a disparu. Peut-être parce qu'Emma est toute tendue dans l'attente d'un autre sentiment, amoureux, dans la satisfaction de sa sensualité, déjà exaltée par les confusions du discours religieux, elle n'a et elle n'aura pas d'alter ego. Était-ce d'ailleurs possible? Cette solitude, une autre jeune fille de la campagne, nullement sortie de son milieu celle-ci, du moins en apparence, Félicité, l'a également en partage. Dans le chapitre qui retrace son histoire d'amour, avant l'embauche par Madame Aubin, la jeune orpheline perd sa mère, est délaissée par ses sœurs et reste seule. Je cite, « Un fermier la recueillit et l'employa, toute petite, à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des haillons, buvait à plat ventre l'eau des mares, à propos de rien était battue et finalement fut chassée pour un vol de 30 sols qu'elle n'avait pas connu. Elle entra dans une autre ferme, y devint fille de basse-cour, et comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. » Nulle mention dans cette rude existence d'enfant de ferme d'une quelconque affection. Il est assez rare qu'un petit enfant se voit confier un cheptel de vaches, tant la taille du bétail est adaptée aux capacités physiques de l'enfant, quel que soit son sexe. Les historiens de la vie rurale, et je m'appuie en particulier sur ce livre qui m'a beaucoup éclairée pour la lecture de ce chapitre, c'est « La jeunesse rurale dans la France du 19e siècle » d'un historien de la vie rurale qui se nomme Jean-Claude Farcy. Ce n'est en général en effet qu'après la première communion, soit vers l'âge de 12 ans, que le cheptel bovin est confié à une jeune fille qui se voit alors également chargée des tâches de l'étable, avant qu'elle ne soit orientée vers des activités plus spécifiquement féminines, le soin des animaux de la basse-cour, la traite des vaches, l'entretien du jardin, les travaux ménagers qui vont de la corvée d'eau à l'entretien de la maison. On peut donc dire, et c'est donc tout à fait évident, que la petite Félicité subit une maltraitance exceptionnelle chez son premier maître, avant d'être finalement traitée conformément à son âge et son sexe chez le second. Bonjour Gisèle.
Bonjour.
La fête fait la jeunesse, rappelle Daniel Fabre. C'est-à-dire que la fête ponctuelle, ni civile ni religieuse, constitue le moment dans la vie des campagnes où la jeunesse est, je cite Daniel Fabre, installée au centre d'une petite société qui, à cette occasion, tout en dévoilant ses différences, tente de les fondre en un tout. La fête, rappelle Daniel Fabre, c'est le moment notamment où les jeunes adoptent collectivement de nouvelles façons de chanter, de danser, de se vêtir pour se distinguer des anciens. Rien de tel dans Madame Bovary, où aucun moment de sociabilité villageoise n'a sa place, hormis le mariage d'Emma, alors même que bien des traits de la vie campagnarde y sont présents. Emma ne connaîtra la sociabilité du bal que mariée et hors de son milieu, à la Vaubyessa, ou adultère et à la ville, à l'occasion du bal masqué à Rouen. Lorsque pourtant, fille à mariée d'un riche cultivateur, il eût été assez naturel qu'elle soit courtisée et se rende aux fêtes villageoises. Dans un cœur simple, est simplement et brièvement, mais précisément évoquée, une assemblée, c'est-à-dire une réunion populaire annuelle dans un lieu déterminé, une fête. Un soir du mois d'août, elle avait alors 18 ans, ils, c'est-à-dire ses camarades, ils ont été désignés de la sorte précédemment, l'entraînèrent à l'assemblée de Colville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des maîtriers, les lumières dans les arbres, la bigarrure des costumes, les dentelles, les croix d'or, cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l'écart modestement quand un jeune homme d'apparence cossue et qui fumait sa pipe les deux coudes sur le timon d'un banneau, vint l'inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard, et s'imaginant qu'elle le devinait, offrit de la reconduire. Cette invitation au bal de la part de camarades qui, jalouses, félicitaient pour l'intérêt que ses maîtres lui portent, survient de manière tout à fait impromptue dans le récit. Elle pourrait permettre cette invitation et une plus grande socialisation et une rencontre amoureuse débouchant sur un mariage. L'assemblée, en effet, cette fête locale annuelle, a d'abord pour but de favoriser des alliances, de permettre de mettre en place peut-être des rencontres. Pour autant, dans cette assemblée, s'agit-il de fondre en un tout, comme le disait Daniel Fabre, une petite société dans sa diversité. Les camarades, ils sont ainsi désignés, je l'ai rappelé, de Félicité, regroupent certainement des individus des deux sexes, employés de la ferme. Ils forment la sociabilité de la jeune servante, sans cependant que les relations qu'elle ait pu y nouer semblent favoriser une amitié véritable, car la protection des fermiers la dessert auprès d'eux. Dans cet environnement social, Félicité est donc isolée, car protégée verticalement, elle ne peut l'être aussi par les siens. Il semble même que la communauté villageoise tende à l'ostraciser, ou du moins, et l'on sait que c'était là le sort de bien des filles de ferme, à la traiter comme un membre temporaire de la collectivité, dotée du coefficient social le plus faible. La servante de ferme, qui échappe à la surveillance de sa famille pour servir comme domestique, qui est souvent amenée à changer de ferme, est dans une position d'infériorité à la fois par rapport à ses maîtres et à leurs fils, mais aussi vis-à-vis des autres domestiques. C'est un peu le lumpen prolétariat, si je puis dire, de la ferme. Bien souvent, elle est d'ailleurs un objet sexuel voué à initier à la sexualité les jeunes gens et à subir leurs caprices. Proie d'autant plus facile, rappelle Jean-Claude Farcy, qu'issue de milieux pauvres, elle cumule les handicaps sociaux et intellectuels. Je ne parle pas de Félicité, là je parle de la servante de ferme en général. Si Théodore, présenté dans les plans comme un bel âtre de campagne, tente de la violer, s'imaginant qu'elle le devine, après le don de multiples de menus cadeaux, qui sont des cadeaux traditionnellement employés pour, normalement, conclure une première entente entre deux jeunes gens qui se plaisent et plus si affinité, et plus quand on se reverra. Hein, c'est normalement, c'est des éléments d'une sorte de pré-contrat amoureux, hein, dans les roses villageois. Ces cadeaux, donc, en l'occurrence, le foulard, le cidre, le café, sont donc dans ce cas trompeurs, hein, puisque ses intentions sont de précipiter sur une meule de foin, à l'écart de la fête, la jeune fille. Mais s'il tente de la violer, c'est bien parce qu'elle n'entre pas à ses yeux dans la catégorie des filles à marier, du fait de cette double infériorité familiale et sociale. Il n'a pu que remarquer d'ailleurs qu'il n'y a personne à la fête pour la chaperonner lors de cette assemblée, comme c'est le cas des filles au bal, que leur mère ou quelques membres de la famille ou de la communauté du village généralement tient à lui. Un fils de fermier aisé, comme l'est Théodore, de fermier suffisamment aisé pour racheter leur fils qui risque de partir à la guerre, n'épouse pas une servante employée à la basse-cour. À titre de comparaison, dans la vie d'un simple, d'Émile Guillaumin, Thiénon, lui-même embauché comme domestique, ne peut envisager d'épouser la jeune servante de la ferme dont il est tombé amoureux, la ferme où il est employé, parce que c'est une enfant bâtarde, et il se rabat, si je puis dire, sur une solution plus brutale qui consiste à essayer d'en faire sa maîtresse de force. Pour ce fils de paysan qui est devenu domestique par hasard et indépendamment de sa volonté, seules les filles de métayer sont de son rang, hein, sont épousables. Mais une fille de ferme, voilà, on s'amuse avec elle, hein, avec le sens bien sûr que ce mot a au XIXe siècle. Il n'est donc pas étonnant que Théodore tente d'abord d'obtenir de force les faveurs de Félicité. Il n'est pas non plus étonnant qu'à la fin il l'abandonne brutalement pour contracter un mariage, évidemment charivari, dirait Jean-Marie Privat, avec une vieille femme très riche. Ses parents, on peut s'en douter, ne peuvent le faire échapper une seconde fois à la conscription, et son mariage avec une fille de ferme, orpheline et sans bien, ne peut être accueilli favorablement par eux. Ce qui est donc étonnant, c'est plutôt qu'il la courtise, allant jusqu'à lui offrir, dans les brouillons, une bague d'argent ou de cornaline, un anneau de fiançailles, hein, je cite le brouillon, ce qui, on le sait, vaut promesse de mariage dans les rituels de courtisement. Comme si Théodore, amoureux pour de bon, et il y a ce passage avec, entre parenthèses, ou naïvement peut-être il proposa de l'épouser. Comme si Théodore, donc, vraiment tombé amoureux d'elle, semblait prêt à rompre avec toutes les convenances sociales, sans pour autant, et le détail est important, publiciser son désir auprès de ses parents. Il fit serment, et là je m'appuie sur le folio 277, il fit serment, dit qu'il enverrait promener sa famille, saurait suffire à eux, seulement il fallait attendre, déclare-t-il à la jeune fille dans les brouillons. Au village, les jeunes gens, en effet, peuvent se fréquenter durant des années, parfois même 10 ans avant leur mariage, du moment qu'ils se sont promis l'un à l'autre, mais non à l'insu de la famille. Il n'est pas rare d'ailleurs que des scandales éclatent lorsqu'un des deux fiancés, cachotier, est dénoncé aux parents par des voisins. La surveillance exercée par les maîtres de Félicité et les scènes violentes à laquelle cette surveillance donne lieu peuvent bien avoir appris aux parents de Théodore qu'il fréquentait et qu'il fréquentait un mauvais parti. Je vous prie de m'excuser, je vais fermer la porte puisqu'il y a un petit peu de bruit.
Excusez-moi. Non, je ferme parce qu'il y a un enregistrement. Non, non, mais il faut que je ferme la porte. Excuse-moi.
Excusez-moi de cette interruption. Le romancier, donc, semble avoir, et il semble que c'est un élément qui est vraiment intéressant, il semble avoir voulu ouvrir un horizon à la jeune servante, en la socialisant, en la faisant aimable, en faisant aimable surtout celle qui était présentée quelques pages plus haut dans le chapitre 1, comme une femme en bois fonctionnant d'une manière automatique et qui, à l'âge de 25 ans, paraissait 40. Il lui a esquissé un destin sentimental, certes, aussitôt arrêté, mais qui demeure dans la mémoire du lecteur comme un possible, enrichissant par là même celle qui sera tout au long du récit le type de la servante dévouée et de la vieille fille. Raymond de Bray-Genette avait bien pointé ce qu'elle avait appelé la trace d'une intrigue dont le récit d'un cœur simple avait été amputé, quelque chose d'un roman que Flaubert a donc délibérément effacé, une sociabilité villageoise avec son lot d'intrigues, de jalousie et de haine, une rencontre amoureuse, des rendez-vous nocturnes et les péripéties qu'ils peuvent amener. Quels sont d'ailleurs les ingrédients de ce roman ? Pour détailler un peu ce qu'on trouve dans les brouillons. D'abord, la séduction de la jeune fille. Ensuite, les éléments qui construisent une temporalité. Et enfin, des opposants. Les avant-textes confirment d'abord en effet la séduction du personnage. Dans la marge du folio 275, un portrait de Félicité la présente comme très blanche, blonde, avec les dents blanches et les prunelles bleues, si propre, modeste, dans sa tenue qu'elle aurait l'air d'une dame. Ça, c'est au bal, hein, quand elle apparaît au bal. Également est mentionnée la sensualité de la servante qui sentait, je cite folio 274, qui sentait tout son corps frémir lorsqu'elle est enlacée par Théodore. Tout cela est évacué donc du conte final, de même que tout ce qui renvoie à l'intériorité du personnage. Sa tristesse de l'abandon, etc., est beaucoup plus développée. Et cela revient ensuite lorsqu'il est question notamment de la veuve qu'a épousée Théodore. Si l'idylle entre les deux personnages est dans le conte résumé à quelques épisodes elliptiques et sorti d'une temporalité précise, un soir du mois d'août, un autre soir, la semaine suivante, bientôt il la voit, dimanche prochain entre 11h et minuit, placé sous le signe souvent de la répétition, hein, de l'imparfait littératif notamment, les brouillons sont plus précis. C'est ainsi tantôt 2 ans après la tentative de viol ou à l'automne de l'année suivante que Théodore et Félicité se retrouvent sur la route de Beaumont, où je ne peux pas m'empêcher de voir un sous-entendu érotique, d'autant que Félicité a pour nom de famille à l'époque Coin d'Art, qui me semble faire entendre un con. Donc je vois un Beaumont et un con, excusez-moi, ça, c'est à force d'avoir travaillé sur Verlaine et Rimbaud qu'on se déforme ainsi. Derrière une charretée de foin, et c'est au prix de grands dangers que la jeune fille s'échappe régulièrement pour retrouver son amoureux. Les patrons de Félicité, je cite le folio 275, avaient découvert ses rendez-vous et la maîtresse, en l'injuriant devant tous les autres, jura si elle recommençait de la fouetter publiquement. Cette dramatisation qui revient à plusieurs reprises sous diverses formes dans les différents états du texte, de l'avant-texte, la jeune fille doit échapper aux chiens, elle doit échapper à ses maîtres, elle entend des injures, elle reçoit des coups, toujours pour rejoindre un jeune homme qui de son côté s'enflamme de plus en plus et se déclare prêt à se faire chouan dans la Bretagne ou bien à s'égorger sous ses yeux. Donc ces éléments de dramatisation ressortissent bien à ce roman caché sous le conte qui compte, qui élimine aussi les sanglots de Félicité dans sa chambre, comme son mouchoir trempé de larmes et de sang. Donc, que Félicité soit courtisée dans les règles par un jeune homme, qu'elle entende de grands serments, comme le dit le texte définitif, qu'elle puisse envisager d'épouser ce cadeau de Dieu, hein, qui est bien le riche Théodore, place temporairement ce personnage dans une sociabilité horizontale et codée, en vertu des normes qui prévalent entre filles et garçons dans la communauté villageoise. Et finalement, elle a absolument tous les éléments du parcours amoureux, jusqu'à l'abandon, sont présents, les rendez-vous nocturnes, l'échange des baisers, la chasteté contrôlée des corps, la demande en mariage, et finalement la soumission à la volonté des parents qui viennent rompre l'union. Bien plus, on peut dire que la fille de basse-cour a droit à un traitement exceptionnel dans le monde rural. Son abandon en faveur d'une vieille femme, parfaitement explicable dans le contexte des guerres napoléoniennes, même s'il est charivarique, est d'une imparable logique dans le monde paysan. Il ne disqualifie pas Félicité, elle n'est pas abandonnée parce qu'elle aurait tel ou tel travers, ou parce qu'elle serait laide, ou parce que je ne sais. Mais c'est la société, les parents, le village, c'est l'époque, la conscription, les guerres, qui imposent de tels choix. Et finalement, Félicité a eu, comme une autre, son histoire d'amour. Elle a été, comme les autres jeunes filles, lors même que le texte définitif ne la place guère à côté de ces jeunes filles. Ce qui correspond peut-être à la logique agéographique. Il faut qu'elle ait connu un moment de bonheur, qu'elle ait eu une vie comme les autres avant. On ne fera donc pas, je ne ferai donc pas de cette idylle une lecture ironique. Je me refuse à voir les calculs cyniques du bellâtre Théodore ou une vengeance de ses camarades contre, comme Félicité. Là, je m'inscris délibérément, je suis délibérément en désaccord avec la lecture de Steve Murphy. Mais je garderai à Félicité, héroïne en chair, sous la femme en bois, son histoire d'amour. Ce moment unique de sociabilité dans son existence est aussi celui où elle pourrait devenir une femme, enfin, échapper à la fois au célibat et à la domesticité. Et j'oserais donc dire que Félicité et Théodore réalisent fugacement le programme porté par leur prénom. J'en viens enfin à ce personnage si singulier qu'est Louise Rock. Louise cumule les handicaps sociaux. Née hors mariage, elle est fille d'une femme galante qui ne se soucie nullement d'elle et ne se préoccupe que de sa propre surface sociale. L'enfant trouve en Catherine, ancienne servante maîtresse de son père, une mère de substitution, mais qui reste une domestique, soumise à ses caprices, et est souvent, je cite les brouillons, occupée à ses savonnages, tandis que son père est toujours pris par ses affaires. La première apparition de Louise, enfant, avant sa première communion, la décrit comme, je cite le texte définitif, une petite fille d'environ 12 ans et qui avait les cheveux rouges, se trouvait là toute seule. Il est question de son jupon blanc, maculé de taches de confiture, et d'un corset de toile grise. Dans l'édition Biasi, c'est page 163. Le choix de cet âge, 12 ans, programme littéralement le personnage. Première communion, puberté, première règle, tout est là. Et saisie à ce seuil, Louise, avec sa grâce de jeune bête sauvage, je suis toujours dans le texte de l'éducation, saisie à ce seuil, Louise justement ne parvient pas à le franchir, et en particulier du fait de son défaut de socialisation. Elle correspond cela à la définition que Marie Scarpa donne du personnage liminaire dans un article important paru dans le numéro consacré à l'ethnocritique dans la revue Romantisme il y a quelques années. La première rencontre avec Louise inaugure en tout cas ce motif de la singularité, perceptible d'abord au physique de Louise. Elle a les cheveux rouges. Flaubert y insiste, il revient. Ce n'est pas un hasard. Et les yeux verts. Perceptible à son physique, perceptible aussi à sa vêture, qui sera toujours et tout au long de l'évolution du personnage inappropriée. Soit que l'enfant soit trop dénudé, comme lors de sa première apparition, soit que ses vêtements soient en lambeaux ou tachés, soit qu'il soit mal choisi et fasse tache socialement parlant. La fameuse robe verte lors de la soirée chez les Dancous. Le tout pointant donc un défaut d'apprentissage et de socialité. Lorsque Frédéric, ruiné, revient vivre à Nogent, Louise, qui porte alors, je cite, une robe blanche en lambeaux avec un pantalon garni de dentelle, est une fois encore présentée comme seule dans son jardin et tout à fait livrée à elle-même. Elle n'a l'occasion de fréquenter aucun enfant de son âge. Elle est en effet éduquée à la maison par un vieux bureaucrate de la maison. De la mairie, pardon. Elle est ostracisée par les bourgeois nogentais qui refusent que leur marmot, l'expression figure dans l'édition, dans le texte définitif, la côtoie. Le lecteur comprend donc immédiatement que Louise n'est pas une demoiselle. Elle est saisie, je l'ai dit, à l'âge de la communion. Or, la préparation de la communion dure au moins une année et met la jeune fille en présence avec d'autres jeunes filles. Que le roman ne mentionne jamais. Je signale au passage que celle qui prépare la communion doit abandonner les lectures de distraction et même bien souvent abandonner son instruction pour se consacrer uniquement à la prière, à d'éventuelles mortifications et à son examen de conscience. Et c'est normalement la mère qui prépare l'enfant à cet examen de conscience. En l'occurrence, dans le parcours de Louise, c'est l'Église et, il me semble, simultanément la littérature qui fait découvrir à Louise le mal. La confession de ses péchés, préliminaire obligatoire à la première communion, puis la lecture de Macbeth que lui fait Frédéric. Il y a d'abord les questions du prêtre. En général, donc, la mère préparait sa fille par un examen de conscience régulier à cette confession par le prêtre, dont on sait que les questions pouvaient être insistantes. Ce prêtre auquel Louise doit dévoiler ses péchés. Et il y a ensuite donc les lectures que lui fait Frédéric, et qui sont donc en contravention, si je puis dire, hein, par rapport à ce moment où elle doit s'éloigner de toute distraction. Hein. Un Frédéric qui oublie son âge, c'est page 170, et qui, on le comprend, joue au pédagogue. En ce qui regarde les péchés qui font pleurer Louise, puisqu'elle revient vers Frédéric en pleurant et en lui disant qu'elle a commis des péchés. Ces péchés correspondent à l'épisode qui s'est produit la veille, ce moment où Frédéric l'a conduite dans sa chambre de garçon, moment où Louise s'est pommadée les cheveux, a ouvert tous les flacons d'odeur, inspecté les affaires de toilette et découvert les brouillons sont plus prolixes, lime, pinces, ciseaux, brosse à ongles, toutes choses inconnues chez le père Rock, avant de s'allonger sur le lit de Frédéric. Frédéric lui demanda dans quel but, puisqu'elle ne dormait pas, disent les brouillons. Dans cette rédaction, celle, la rédaction donc des brouillons, les deux moments sont très nettement articulés. Le séjour dans la chambre et les pleurs causés par les péchés. Grâce, en effet, à un mais, hein, c'est au folio 18 recto, mais le lendemain, qui fait saillir la brutale prise de conscience de l'enfant. Elle a subitement pris conscience du fait des questions du prêtre, que ce qu'elle a fait en suivant le jeune homme dans sa chambre, à son invitation, il faut le préciser, hein, à l'invitation de celui-ci, et en se couchant sur son lit, est un péché, sans parler sans doute de la jouissance olfactive qu'elle a prise à déboucher tous les flacons d'odeur de Frédéric. Outre Macbeth, dont il lui fait la lecture, les brouillons mentionnaient aussi qu'il lui prêtait, je cite, des livres amusants, magasins pittoresques, Mille et une nuits, poètes. Et mentionnait aussi qu'ils coloriaient ensemble les images de contes de Madame d'Aulnoy et de Don Quichotte. Parmi ces différents ouvrages, qui renvoient à des souvenirs personnels de Flaubert, vous savez ça bien sûr beaucoup mieux que nous. Parmi ces différents ouvrages, Macbeth tranche. Hein, ce n'est pas exactement la même chose que le magasin pittoresque, et a priori Macbeth, ce n'est pas des livres amusants. La pièce de Shakespeare, en outre, va jouer un rôle capital. Le folio 17, Macbeth, par le tourneur, la ravage tellement qu'elle se réveille la nuit, se croyant Lady Macbeth, et criant « la tâche », en se frottant les mains. L'identification à la reine instigatrice et complice du crime accompli par son mari conduit Louise donc à se représenter elle-même en rêve, comme une reine. On pourrait voir là l'empreinte de la mère. Madame Éléonore est dépeinte comme une belle blonde à figure moutonnière à port de reine. Et on peut supposer le prénom à prétention qu'elle porte, lié à sa période galante, un nom de guerre sans doute. Sa fille d'ailleurs sortait vêtue comme une princesse ou grande fête pour mortifier les bourgeois, ça ce sont des extraits du texte définitif, qui la tiennent à distance. Louise, encore, porte les prénoms d'Élisabeth, Olympe, Louise, Roc, écho sans doute des prétentions maternelles, mais parmi lesquelles aussi figurent de prénoms royaux, de la reine, Louise a encore les caprices et les terribles colères sur lesquelles les brouillons sont beaucoup plus prolixes que le texte définitif. Mais comme sa mère, Louise ne peut que jouer à la reine ou à la princesse, ou rêver qu'elle est une reine. Le folio 16 confie ainsi « Elle n'eut pour camarade » et c'est la seule occurrence que j'ai trouvée hein, de camarade. « Elle n'eut pour camarade que des enfants de pauvres gens qui, retenus, alléchés par l'espoir du goûter, souffraient tout. » Détail qui disparaît de la rédaction, hein, les petits pauvres qui viennent donc animer les après-midi de la jeune fille, ils ne le font que parce qu'ils sont alléchés par le goûter. Ils sont payés en nature, en quelque sorte. Hein, ils sont payés en nourriture. Ce sont en quelque sorte des figurants hein, qui sont là pour occuper les après-midi de la petite reine, mais une petite reine isolée, mais qui entretient en tout cas une sorte de, on peut le dire, cette reine sans autre royaume que son jardin, hein, entretient une relation de domination hein, avec ses petits pauvres. Elle les réduit, semble-t-il, au rang de sujets hein, dont le jeu serait payé en nourriture. Les brouillons insistent par ailleurs sur la manière dont le père Roch considère sa femme et son ex-servante maîtresse, toutes les deux comme ses servantes, rendant ainsi toute hiérarchie et toute relation familiale illisible pour l'enfant. Cette interprétation est confortée par l'absence d'éducation de l'enfant, à la fois en termes de savoir, on connaît de toute façon les limites de l'instruction qui était donnée aux filles, en termes de savoir transmis par un vieux bureaucrate de la mairie, dont les leçons débouchent sur les querelles entre les deux femmes, les deux femmes du père Roch, donc, mais aussi absence d'éducation de l'enfant en termes coutumiers. Louise n'a pas non plus reçu l'indispensable initiation aux travaux d'aiguille, ses régulateurs d'humeur, ses outils d'apprentissage de la soumission. Les colères en sont d'ailleurs un indice. Parmi les jeunes filles de l'époque contemporaine dans notre corpus, seule Louise Roch n'est jamais représentée cousant, rodant ou tricotant. Rappelons-nous par contraste la première apparition d'Emma et le commentaire de Jean-Marie Privat ou celui de Steve Murphy sur cette jeune fille hein, qui se pique en cousant et saigne. Pas de travaux d'aiguille donc pour Louise. Pratique qui caractérise en revanche une autre jeune fille de l'éducation, au statut social pourtant tout aussi incertain, quoique de manière différente, Mademoiselle Cécile, la nièce de M. Dambos, qui est représentée alors qu'elle se brodait, je cite le texte, une paire de manchettes. On sait en particulier pour les filles de l'âge de Louise l'importance du marquoir ou de la marquette, ce chef-d'œuvre de broderie qu'est l'abécédaire, préface du trousseau dont Yvonne Verdier, dans Façon de dire, Façon de faire, a montré le lien étroit avec le destin biologique féminin. C'est à l'âge où elle commence à voir, terme médical, ou à marquer, terme ancien attesté par le littré, autrement dit au moment des premières règles, que la jeune fille réalise ce chef-d'œuvre. La tâche shakespearienne n'aurait-elle donc pas aussi quelques rapports avec la découverte de la menstruation, épisode dont les traités médicaux du XIXe siècle soulignent à l'envi le caractère traumatique pour celle qui ne sait pas ce que signifie voir ou marquer et l'apprend brutalement. Les écrivains se plaisent, on le sait, à situer ce moment aux abords de la première communion. Si l'on accepte de voir un lien entre le cauchemar de la tâche et cet épisode du devenir biologique, on identifie mieux chez Louise la difficulté à franchir le seuil de la nubilité. À propos de seuil, il convient de relever que le rôle de Frédéric est capital. Mais il fait franchir des seuils, mais il fait mal franchir les seuils. C'est lui qui lui fait franchir, pour la première fois, en la soulevant dans ses bras, la haie de séparation entre les deux jardins. Et il ne s'agit pas là de n'importe quelle barrière. Hein, car elle sépare le jardin de la respectable Madame Moreau et celui des Roch, qui s'évite et qui fréquente d'ailleurs le jardin à des heures différentes pour ne pas avoir à se saluer. Ce sera lui, un corps, qui, en l'absence de Madame Moreau, fera pénétrer la jeune fille dans sa chambre. Si Louise est perdue dans le temps, hypothèse que je formule, hein, destin biologique, etc. Car mal initié à franchir les étapes que sont les états de femme, si la vie sociale lui est illisible, car elle est seule et vit dans une famille dont on dira qu'elle est dysfonctionnante, elle entretient aussi à l'espace un rapport placé sous le signe de la confusion. Donc, perdue dans la société, perdue dans l'espace et perdue dans le temps, hein, pour résumer. Devenir une demoiselle suppose au XIXe siècle l'apprentissage de contraintes et l'intériorisation de normes et de codes innombrables, hein, de savoir se ganter, à savoir monter dans une voiture, à ne pas croiser ses jambes, à ne pas croiser ses pieds, etc. etc. Toutes les règles du maintien, hein, qui sont très longuement détaillées dans tous les manuels d'éducation, dans tous les traités de savoir-vivre. Pour ce faire, Louise n'est aidée ni par sa mère, qu'elle a entre-temps perdue, ni par Catherine, dont le prénom modélise d'ailleurs suffisamment clairement un devenir vieille fille, ni par la moindre camarade. En dehors de la parole du vicaire, seule voix de l'autorité, Louise n'a aucun interlocuteur. Dans les brouillons, Flaubert insiste sur le fait qu'elle n'est pas dévote et qu'elle s'ennuie. Hein, elle s'adresse à Frédéric, notamment dans cette scène du jardin du père Roch dans l'île. Cela vous occupe, répond-elle à Frédéric qui joue l'homme occupé par la politique. Oh, comme je me suis ennuyée depuis votre départ. Et exhalant ses mélancolies de jeune femme, dans un langage presque enfantin, elle lui conta l'aridité de son existence, sans personne à voir, sans le moindre plaisir, la moindre distraction. La critique a volontiers expliqué l'inadaptation de ce personnage, visible donc dans ses fautes de goût vestimentaire, par son ascendance problématique. C'est d'ailleurs la réaction des Nogentais au moment du cauchemar de Louise. Cet accident qui dénotait, je m'appuie sur le brouillon folio 17 verso, cet accident qui dénotait la délicatesse d'une nature exceptionnelle était dû à un excès de sensibilité, a rayé Flaubert, eut aux yeux des bourgeois un certain caractère de débauche prématurée. S'y prend de bonheur, du reste avait de qui tenir, bon chien chasse de race. Les bourgeois de nos gens programment ici une lecture déterministe. Si la jeune fille se comporte de façon excentrique, s'habille de couleurs voyantes, se jette à la tête d'un jeune homme, puis se marie avec le nouveau préfet avant de s'enfuir avec un chanteur, c'est parce qu'elle est lestée d'une lourde hérédité familiale et sociale, dont les mauvais effets sont encore accentués par la fréquentation du fils Moreau. Là encore, brouillon folio 17, c'était du reste la faute de... On dit que le fils de Madame Moreau lui apprend à déclamer et veut en faire une actrice. L'hérédité, la sagesse des nations, hein, bon chien, chasse de race, viendrait ainsi justifier l'excentricité du personnage dont il ne sera pas difficile de faire une hystérique à la mode du temps. En quelque sorte, cette lecture consiste à lire Louise à travers Zola. Mais Flaubert, pour disséminer des éléments de cette pathologisation de la jeune fille, avec tous les ingrédients que le lecteur de romans réalistes, reconnaît sans peine. Puberté, plus première communion, plus premier trouble sensuel, plus excès de sensibilité, plus comportement inapproprié, plus mauvaise lecture. Et ça, on l'a trouvé partout, finalement. Mais le romancier, donc, pour disséminer tous ces éléments, ne rend pas massive cette étiologie. Louise est d'abord une jeune fille privée d'amour, la fille d'une mère qui ne fait rien d'autre que se mirer dans la glace, comme le note le folio 17. Elle est coupée de toute sociabilité avec les jeunes filles de son âge, et de la sorte qu'il faut y insister. Elle est à la fois handicapée, mais aussi préservée. Louise reste ainsi en communication avec la nature, je cite le texte, parfois représentée dans un état de béatitude presque panthéiste, couchée sur le gazon, contemplant les fleurs, allongée au soleil. Ses portraits, dans les différents états du texte, font volontiers d'elle la petite Ève d'un nouvel Éden, tant son visage, ses gestes, son corps se détachent presque constamment d'un fond de nature et sont dotés d'une séduction souvent intense. Les cheveux rouges sont l'indice, la rousseur était, selon les croyances campagnardes, un indice de forte sensualité qui attirait et effrayait à la fois. Il me semble bien que c'est la relation, en un sens, que Frédéric éprouve à son égard. En tout cas, la liberté de cet enfant à l'état de nature se colore volontiers d'un érotisme codé. L'allusion à l'escarpolette ouvre l'imaginaire libertin constamment associé au personnage. Déjà le jupon brodé, le pantalon garni de dentelles, plus tard la haie franchie dans les bras de Frédéric, plus loin la folie en ruine dans le jardin du Père Roc le long de la Seine, ou encore l'équipée nocturne à Paris avec Catherine. Le rôle même de Frédéric, qui se plaît à jouer au professeur, tout en mettant en avant son éblouissante essence parisienne auprès de ce bon petit être, début du chapitre 6 de la deuxième partie. Inscrit aussi un imaginaire 18e autour de Louise, personnage qui pourrait être l'héroïne d'une fiction pédagogique, reprise et délaissée au fil du récit selon les allées et venues de Frédéric entre Nogent et Paris. Mais le fait qu'il la garde comme une poire pour la soif, sans chercher à approfondir durablement l'altérité singulière dont elle est porteuse et que le lecteur perçoit, le disqualifie et, à mon sens, valorise la jeune fille. Mais vous aurez compris que je suis assez sensible à la grâce de Louise Roch. Dans ce roman en réseau, Louise est un pôle. Elle est riche de multiples potentialités romanesques que le lecteur, il me semble, c'est peut-être encore moi, lectrice, aimerait voir se déployer. Un lecteur un peu déçu par sa fuite avec un chanteur qui semble réaliser à la fois les prophéties de la bourgeoisie nogentaise, rappeler le rêve d'Emma à propos de Lagardie, et conforter peut-être cette lecture pauvre à laquelle ce personnage a trop souvent droit. Louise Paul, associée à Nogent, est aussi à l'origine du récit d'un apprentissage, mais un apprentissage en dehors de toute société, où se retrouve la fiction pédagogique. Elle trace un parcours de jeune fille, de la première communion au mariage, en passant par la présentation dans le monde, le dîner chez les Dangereuses, dont je ne parlerai pas. Elle est ainsi également un marqueur temporel, tout comme la chevelure de Madame Arnoux. Alors, que retenir de ces trois études? D'abord que la socialité est distinction. Les bourgeois s'agrègent. La jeune fille flaubertienne, qu'elle soit fille de fermier riche, misérable servante de ferme ou fille mal née, se distingue. Qu'elle soit mal aimée ou jalousée, elle n'est de toute façon pas à sa place, elle n'est pas assignable socialement, elle n'est pas intégrable. L'effacement de la sociabilité de la jeune fille, dont on a vu la présence dans les avant-textes. Dans cette indistinction de la camaraderie, hein, ou des petits pauvres hein, qu'on amène à lui, se décline de trois manières différentes. Il contribue à l'isolement d'Emma, il simplifie le parcours de Félicité et le tire du côté de la géographie, il singularise fortement Louise. Chacune y cherche un remède. Emma dans la fiction, Félicité à l'église, auprès de Paul et Virginie, de Victor, de Loulou, grâce auquel elle se bricole une famille. Autre fiction. Louise, à laquelle livres ou religions ne suffisent pas, demeure insocialisable et semble-t-il en panne de scénario se projeter. De manière révélatrice, dans les brouillons, au moment de l'entretien au bord de la rivière, elle demande à Frédéric de lui donner à lire des drames sanglants, confirmant ainsi qu'elle en est restée au stade de la tâche et de la reine homicide. C'est aussi à cette occasion qu'elle déclare envier l'existence des poissons, page 378, et roucoule, hein, là, ce cri comme un roucoulement, ce cri suave hein, comme un roucoulement, lorsque Frédéric passe son bras autour de sa taille, page 379, inscrivant ainsi son maintien du côté de l'enfance, de la liberté animale, de la nature. La problématique sociabilité de la jeune fille chez Flaubert est donc un signe au moins biface. Il programme un avenir, il situe le personnage dans le système du roman et peut manifester aussi, à contrario, son rapport privilégié avec la nature, chez Louise, comme chez Félicité, dont le rapport avec les animaux est premier. C'est détacher ces jeunes filles, puis jeunes femmes, sur un fond de bourgeoisisme. les arracher à leur siècle d'argent et signaler leur inconvenance.